Moi, j'ai commencé à écrire en fait du jeu de rôle à l'âge de 12 ans. Et donc, c'était une vraie pratique d'ores et déjà en fait de la création d'univers, parce qu'on fait des scénarios, parce qu'on invente des personnages. Et c'est vrai que je suis venu à la littérature en fait par le jeu de rôle. Et c'est un vrai problème parce que quand vous commencez en fait à écrire des livres, vous n'avez pas du tout la même démarche que celle d'un jeu de rôle qui veut capter en fait l'ensemble des règles qui régissent un univers, alors que dans un roman, ce qui nous importe, c'est une histoire, mais surtout des personnages. Et dans précisément dans le jeu de rôle, et Stéphane Marsan le dit très bien à ma place, c'est que dans un roman, vous faites le choix d'une histoire, dans un jeu de rôle, vous ne faites pas de choix. C'est-à-dire qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de joueurs et de maîtres de jeu. Et c'est vrai que ce choix-là, dans le roman, qui est d'assumer une seule histoire et le suivi comme ça d'un certain nombre de personnages à travers un seul prisme qui est le vôtre, ça change radicalement la perception de l'univers. C'est vrai que moi, en tant que rôliste, typiquement, j'ai mis énormément de temps et j'ai beaucoup de difficultés à oublier en fait tous ces réflexes de faiseur d'univers qui en fait étouffent la perception qu'on peut avoir des personnages. Et il faut toujours se dire qu'un personnage, c'est par le personnage que l'univers vit. C'est-à-dire qu'un univers, on s'en fout, en fait, à proprement parler. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vivent ces personnages. Et c'est vrai que quand on vient du jeu de rôle, c'est un espèce de travers qui vous encombre, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près, je pense, à le filtrer, à le sédimenter, et à faire en sorte qu'après, on raconte des histoires, et qu'à travers vos personnages, cet univers, en fait, brille dans l'obscurité, mais c'est une perception. C'est pas une leçon. Alors que dans le jeu de rôle, bien souvent, il y a une leçon à l'origine du travail. On vous apprend à maîtriser un univers. Dans le roman, c'est tout le contraire.
Pierre, vous avez la même approche à partir du jeu de rôle également?
Sensiblement. Je considère presque comme une forme de coïncidence d'avoir commencé dans le jeu de rôle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'ai commencé dans le jeu de rôle que je suis devenu romancier. J'ai travaillé dans le jeu de rôle.
C'est pas mal en produit.
Oui, mais le fait est que c'était que, à l'époque, on pouvait gagner 3 sous en étant auteur de jeu de rôle, et qu'être auteur de jeu de rôle, ça nous permettait de vivre de notre imaginaire. Le point commun, il est là, finalement. Mais si j'avais eu l'occasion d'être tout de suite, je sais pas, moi, auteur de théâtre ou scénariste de bande dessinée, j'aurais fait ça plutôt que jeu de rôle. Le jeu de rôle me plaisait, j'aimais bien inventer en effet dans cet univers, mais en fait dans ce contexte professionnel. Mais fondamentalement, c'est pas le jeu de rôle qui m'a amené à l'écriture, c'est un goût commun pour le raconter des histoires qui a fait que je me suis intéressé à l'un et à l'autre. Maintenant, créateur d'univers, fondamentalement, je ne pense pas non, enfin je ne définirai pas comme ça. On est d'abord romancier. La création d'univers est un élément du métier, qui va de pair avec la création de personnages. Et à mon avis, il vaut mieux soigner les personnages que soigner l'univers pour devenir un bon bouquin.
Stéphane Beauvergis, que ça fonctionne, ça marche pareil en SF
Bah oui, ça marche pareil en SF. En fait, la question, est-ce que je suis un faiseur d'univers Oui, je suis créateur d'univers, mais en fait, parce que mon métier, c'est scénariste. Donc, je crée des univers, surtout en amont de mon travail. C'est-à-dire quand je bosse sur un jeu vidéo ou sur une bande dessinée. Là, je conçois réellement des univers, puisqu'on va constituer ce qu'on appelle une bible narrative. Un objet qui va être utilisé par les différents corps de métier pour ensuite être animé, être mis en scène, être utilisé par les différents corps de métier du jeu vidéo. Donc quand je bosse en jeu vidéo, je suis vraiment un faiseur d'univers. Sinon je rejoins mes petits camarades. Sur un roman, je construis moins un univers que des personnages qui vont s'y débattre.
Ok. On en parlait, vous me disiez que voilà, vous n'aviez pas le sentiment de créer des univers pour vos romans, alors que bon, on entre quand même dans un autre monde.
appelé.
Très
favorable.
Very close to your mouth.
Ok. Non. Thank you.
Ok. Doch, ich bin natürlich schon auch Weltenschöpfer, weil in dem Moment, in dem ich mir einen Hintergrund für einen Roman ausdenke, egal ob er in der Realität spielt oder in einer erfundenen Welt, baue ich mir meine eigene Kulisse, meine eigene Welt.
Naturellement, si je me considère comme un créateur de monde, dans la mesure où l'engagement qu'il soit voulu pour la réalité et pour le monde,
Ich benutze für meine Geschichten gerne historische Hintergründe, in die ich dann Elemente aus Mythologie und Legenden und Sagen und Märchen einbaue. Das heißt, ich konzentriere mich immer erst einmal darauf, einen bestimmten Hintergrund aus der Historie herauszupicken und recherchiere dann die Mythen dieser Zeit und dieser Gegend.
Pour construire mon univers, je fais des recherches bien sûr sur l'histoire, c'est véritablement l'arrière-plan de mon roman, mais je cherche surtout autour de cet arrière-plan tous les mythes et les légendes, enfin tout ce qui est mythique, tout ce qui relève de la mythologie pour l'étoffer.
Meine Wolkenvolk-Trilogie, diese, spielt im alten China. Mittelalterlichen China und es ist zwar ein historischer Hintergrund, aber in erster Linie geht es tatsächlich um Drachen, um fliegende Schwertkämpfer, um Magie, die auf chinesischen Legenden basiert. Und meine nächste Trilogie, die hier in Frankreich erscheinen wird, spielt vor dem Hintergrund von Tausend und einer Nacht. Im Grunde genommen ist das Mad Max auf fliegenden Köpfen.
Dans la trilogie qui est déjà parue, donc le peuple de Nuée, cela se passe en Chine, à l'époque du Moyen-Âge. Il y a donc effectivement un fond historique, mais j'ai introduit dans cette trilogie des dragons, des combattants à l'épée volant, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et il est évident qu'il y a de la magie qui est insufflée. Le prochain qui paraîtra, lui, se passe en Orient. Il est plus écrit dans le style
dans un style oriental, mais pas extrême oriental. Je ne vous oublie pas, mais donc vous êtes un peu plus dans le même cas, c'est-à-dire c'est vraiment des périodes historiques.
Oui, en même temps, déjà alors pour le
créateur d'univers, moi je me vois plus comme un.
Tout le monde m'entend, oui. Comme un intercesseur, un créateur. L'objectif de la collection Diatemporis,
c'est de plonger dans l'histoire de France, dans des épisodes précis de l'histoire de France. Oui. Vous m'entendez
non,
c'est
un peu
bon.
Celui-là,
il
faut brailler.
Moi, j'adore le rock, alors je peux brailler. Ça. Oui, je disais, je me vois plus comme un intercesseur qu'un créateur d'univers, parce que la collection Diatemporis, elle a pour objectif, d'abord, on s'adresse à des lecteurs très jeunes, 12 à 15 ans, et l'objectif, c'est de les plonger dans des épisodes de l'histoire de France. Donc, moi, en tant que romancier, même qu'apprenti romancier, parce que ça fait que 2 ans que je me suis lancé dans la fiction, j'ai écrit d'autres livres beaucoup plus sérieux avant, j'ai dû faire avec 3 choses. D'abord, le concept qui avait été inventé par mon éditeur. Donc, je n'ai pas inventé les personnages. En revanche, le choix de l'épisode, des épisodes historiques me revient complètement. Ça, c'est la première chose. Donc, première chose, le concept. Deuxième chose, l'histoire avec un grand H. Et là, c'est une contrainte majeure. Quand vous écrivez un roman qui se veut même fantastique, mais avec une grande dose d'histoire, vous ne pouvez pas jouer trop avec l'histoire. Et c'était un petit peu le cahier des charges de la série. à savoir que tout ce qu'on racontait sur l'histoire était exact. Donc en amont, il y avait au moins 2 mois de recherche documentaire avant d'écrire la moindre ligne. Et sur ces deux contraintes, ces deux couches, on va dire qui sont la grande histoire et le concept de l'éditeur, moi j'ai rajouté la mienne, qui est celle en fait d'un scénariste, avec ma propre histoire. Voilà. Et sinon, pour mes influences et un peu la façon dont je vois les choses, je me rapproche assez de Stéphane. Mes influences, moi, c'est le cinéma et le jeu vidéo. Donc c'est vraiment des scénarios extrêmement cinématiques et extrêmement visuels.
Stéphane, d'ailleurs, la contrainte est bien. D'ailleurs, la contrainte historique s'exerce aussi pour le déchronologue.
En fait, sur la terreur d'avoir fait une faute historique, c'est quelque chose de glaçant, parce que même si moi-même je me permets de prendre des libertés avec l'histoire, dans le déchronologue, comme ça se passe au 17e siècle canadien, il fallait quand même que je colle à...
1, 2, 3. On ne le change plus de micro. Je vais le refaire depuis le début. La terreur de l'erreur historique, c'est quelque chose qui... J'ai utilisé le mot glaçant et je persiste, c'est glaçant. Parce que on a beau prendre, enfin dans mon cas, prendre de la liberté avec l'histoire, il y avait des événements et des faits. L'anecdote que je donne souvent, c'est j'étais persuadé que mes pirates allaient boire du rhum, parce que c'est comme ça qu'on fait dans les films de pirates. Et ben non, en 1640, le rhum n'existe pas. Donc il faut trouver du tafia ou de la guildive, enfin voilà, l'appellation historique. Donc voilà, et où leur faire porter des bigorres ou des tricornes, raté. Ils porteront ça un petit peu plus tard, mais pas à l'époque que j'avais choisi. Donc toujours essayer de vérifier les informations historiques, quitte ensuite à leur donner un petit tour de vis, puisqu'on fait quand même, enfin, dans mon cas c'était de l'uchronie, donc de la dérive à partir d'événements réels. Donc voilà, toujours naviguer au plus proche de ce que pouvait être la réalité de l'époque, en la respectant, en respectant le lecteur et en essayant pas de l'embourber dans des erreurs manifestes, mais en prenant aussi la petite part de distance nécessaire aux gens de l'imaginaire.
Alors, en ce qui nous concerne la rigueur historique, c'était d'une part à mes yeux une envie, mais aussi une nécessité. L'envie parce que je désirais vraiment donner vie, enfin, je vous parle des Lames du Cardinal par exemple, dans les Lames du Cardinal, je voulais vraiment recomposer le Paris du début du XVIIe siècle, j'avais plaisir à le faire, j'ai fait des recherches qui m'ont amusé aussi pour y parvenir, donc il y avait cette part d'envie, on pourrait dire, ça relève du projet littéraire. Mais également une nécessité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'introduisais des éléments qui relèvent, eux, du merveilleux ou de la fantaisie, en l'occurrence c'est les dragons, j'étais convaincu, d'une manière assez instinctive, qu'on croirait d'autant mieux à mes dragons dans ce contexte si j'étais rigoureux sur les boutons de porte et sur la forme des fenêtres. Et la chose se vérifie vraiment. C'est-à-dire que les dragons, que d'ailleurs je tarde à justifier dans l'univers, je commence par une scène du cardinal de Richelieu écrivant à sa table, et là où il devrait y avoir un chat, il y a un petit dragon. Et à ce moment-là, je n'explique pas pourquoi il y a un dragon. Ensuite, je reviens au cardinal de Richelieu et je m'intéresse à mon histoire. Donc, introduire les dragons de manière naturelle, comme s'ils étaient des éléments du décor, leur donne une véracité. Mais cette véracité, elle est vraiment soutenue par la solidité du décor qui est autour. D'où la nécessité de cette rigueur historique. En outre, d'une manière un peu intellectuelle, je considère qu'un pastiche n'a d'intérêt que si on est vraiment documenté. C'est pas vraiment la peine de faire une histoire de mousquetaire si c'est pour juste garder le décor comme une toile peinte. Si on fait un roman historique, il y a historique dans le terme, il vaut mieux que ça ait un intérêt, que ça compte, quoi. Mais vraiment, je suis vraiment convaincu que ça, et d'autant plus maintenant que c'est vérifié par les faits, les éléments de merveilleux, ils gagnent leur véracité grâce au reste, grâce au décor.
Ok, vous avez aussi une documentation historique, ou est-ce que c'est davantage des imaginaires? Je parle toujours de la soie élevée parce que c'est le, d'ailleurs de la chimiste. Vous mélangez des éléments donc dans la réalité imaginaire qui vont être plus donc extrêmes orientaux, les films de sabre, les dragons chinois, et puis ce peuple des nuages qui est plus italien, plus dans les inventions à la Léonard de Vinci. Et comment est-ce que vous choisissez des éléments qui vous semblent aller ensemble pour donner une cohérence à votre création?
Ich habe mir als erstes überlegt, dass diese Geschichte in China spielen sollte, wusste aber selbst überhaupt gar nichts über China und musste das alles erstmal recherchieren und wollte deshalb für die Geschichte eine europäische Perspektive haben, also quasi meine eigene kulturelle Perspektive, aus der ich dieses China schildere. Und deshalb sind mein Held ein Italiener, der in China strandet.
Oui, en fait, mon envie première était d'écrire une trilogie sur la Chine. Seulement, je ne savais rien du tout sur la Chine, ou quasiment rien sur la Chine. Et je voulais donc donner à cette trilogie une perspective européenne. Et une perspective européenne, je l'ai trouvée justement dans mon héros qui, lui, est italien. Et donc, j'ai essayé donc, de mêler les deux.
Was den Nachteil hatte, dass ich zwei Kulturen recherchieren muss. Ich musste zum einen die Kultur des alten China recherchieren und auch die Historie recherchieren und musste zugleich die italienische Renaissance zu einem bestimmten Grad recherchieren, weil eben dieser Italiener natürlich mit seinem europäischen Renaissance-Weltbild nach China kommt und die Dinge natürlich ganz anders sieht, als ein Chinese sie sehen würde.
Le désavantage, bien sûr, c'était que là, ça m'a donné beaucoup plus de travail, puisque j'ai dû rejeter de double recherche. Je recherchais d'abord sur la Chine, l'ancienne Chine, et rechercher sur l'Italie de la Renaissance, puisque mon héros, qui arrive en Chine, lui, vient de cette époque de la Renaissance italienne.
Alors Mathieu, vous avez parfois une petite base historique comme dans Bohème, mais très souvent vous construisez beaucoup plus, enfin, vous partez davantage de quasiment zéro, enfin, ce qui est évidemment impossible, mais qu'est-ce que vous mettez en place comme arrière-plan pour vos romans qui serait l'équivalent de ce cadre historique sur lequel vont s'appuyer les romans, donc davantage de fantaisie historique?
Alors c'est vrai que moi je suis beaucoup moins rigoureux que mes petits camarades. C'est vrai que... la question soulevée est extrêmement importante parce qu'elle nous parle de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on ne peut pas dire pour faire admettre le fantastique. Et ça c'est absolument vital quand vous écrivez un roman dans le domaine du fantastique, c'est quel est le domaine de perception entre l'information et ce qui tient lieu, je dirais, du convenu dans l'univers. Et c'est vrai que c'est une alchimie très compliquée. Pierre citait notamment cette histoire de dragon, à quel moment je l'explique, à quel moment je décide d'être plus didactique. C'est très très important en termes d'immersion, de savoir à quel moment on peut comme ça digérer le contexte. Et c'est vrai que par exemple moi je n'ai pas de véracité historique, si ce n'est cet inconscient collectif qui est lié au médiéval, et ça je pense qu'on le partage tous facilement. Il est très immédiat, ce Moyen-Âge qu'on connaît tous. Enfin, c'est pour ça qu'on parle d'une... Si je vous dis une épée, si je vous dis un seigneur, si je vous dis une vallée, si je vous dis une forêt, ou si je vous dis un dragon, il y a forcément des figures tutélaires et mythologiques qui vous éclatent à l'esprit, et c'est très simple à partir de là de construire et de vous inviter à entrer dans un univers. Parce que le plus compliqué, je ne vous le cache pas, c'est de rentrer dans un univers. C'est vraiment très... Enfin, d'abord dans une histoire, bien sûr, mais derrière... Si on veut, parce que là on parle des univers aujourd'hui, si on veut entrer dans un univers, il va vraiment falloir qu'on vous prenne par la main. Et ça je pense que c'est vital, c'est essentiel, et on met des années à l'apprendre et à essayer de le faire bien. Parce que si je vous invite sur la planète des Chouis en compagnie des Sbu pour pouvoir parler de Gnou, vous n'allez rien comprendre et ça va intéresser personne. Et voilà. Chut, je dis. Mais voilà, et ça, c'est vraiment cette espèce d'idée où tout d'un coup, on est assailli par l'information, on ne comprend rien. Et je pense que cette base historique, c'est un très bon point d'entrée, si vous voulez, pour pouvoir entrer dans une histoire. Moi, j'ai le médiéval au niveau le plus bas, cette espèce de substrat qu'on partage, je vous disais, hein, le seigneur, le châtelain, enfin, toutes ces, quand je vous parle d'un château, d'un donjon. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus au fond du concept. Parce que moi, je pars toujours sur une structure pyramidale, je vais faire court quand même, une structure pyramidale qui est une idée forte pour un univers. Dans les chroniques crépusculaires, c'est un danseur, c'est-à-dire qu'on a des créatures qui sont des petites créatures humanoïdes qui dansent, en fait. Et c'est en les faisant danser qu'on crée la magie. Et donc, on est dans l'art du corps, on est dans l'art de la chorégraphie, et en fonction, l'obscurantiste, par exemple, va faire souffrir un danseur à travers la danse, donc on est presque dans l'art de la torture, alors qu'un jornis, lui, va développer une véritable empathie avec son danseur. Donc pour moi, ça, c'est l'idée forte. Et après, moi, j'essaie d'inonder l'ensemble de mon univers avec cette idée-là. Et par exemple, dans Chronique du soupir, c'était le souffle. On a une fée à la place du cœur, donc forcément, quand on parle, quand on chante, quand on soupire, la magie est naissante. Et pour finir, je dirais que moi, ce qui me semble essentiel quand j'écris un livre, c'est merveilleux, c'est le sens du merveilleux. Et si j'ai pas ça, entre guillemets, pour commencer une histoire, pour commencer à élaborer l'histoire et l'univers, je suis incapable, en fait, de partir d'une véracité historique. J'en serais bien incapable. Donc, chapeau à eux.
Je voudrais ajouter que sur la... Ce qui pourrait apparaître comme une nécessité de la rigueur, en fait, n'en est pas une. Il y a des univers qui ont besoin de rigueur et d'autres qui n'en ont pas besoin. J'ai eu le sentiment, par exemple, par exemple du cardinal, qu'il fallait que je sois rigoureux, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a une autre série de bouquins, Les Enchantements d'Andromère, où j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que je voulais que ça se passe au début du XXe siècle à Paris, j'avais des images très cartes postales dans la tête, et même au sens rigoureux, à savoir que j'avais vraiment des cartes postales de l'époque qui m'inspiraient, et je voyais ce qu'était Paris. Mais quand j'ai imaginé cet univers où le merveilleux se mêlait à Paris, j'ai vite eu le sentiment que j'avais pas besoin de me documenter, qu'il valait même mieux que je ne me documente pas vraiment. Que je reste sur des images d'Épinal, sur des clichés, sur mes souvenirs des Brigades du Tigre, de quelques bandes dessinées, de quelques films, et puis d'images tremblées, sépia, etc. Me disant que si ce dont moi je me souvenais, a priori vous en souviendrez également, et qu'on allait utiliser un même substrat, une même matière fantasmée, presque mythologique de notre culture, qui allait faire sens. Mais ça ne fonctionnait, à mon avis, que parce que ma magie, mon merveilleux, était justement du merveilleux, qui relevait du conte de fées, de l'inexplicable, et beaucoup moins finalement que de la fantaisie. La fantaisie souvent explique des systèmes de magie, rationalise la magie, explique comment elle fonctionne, pourquoi, comment. Dans le conte de fées, non, l'enchanteresse est une enchanteresse, la forêt est magique, est une forêt magique. Il n'y a pas d'explication. Or, c'est cette magie-là que je voulais dans les enchantements d'Andromère. Donc, j'ai traité d'une certaine manière la magie avec légèreté par nécessité, mais il m'a semblé que pour l'univers, c'était aussi nécessaire que je le fasse à égalité.
Je réagis à ce que vient de dire, et sur le déchronologue, j'avais une autre problématique. Là, je vois, quand vous parlez de faire référence à l'imaginaire ou l'inconscient collectif, c'est vrai que c'est très facile de s'appuyer dessus, il faut s'appuyer dessus. Mais j'avais une problématique qui était très largement différente. Je voulais justement m'éloigner de la mythologie pirate du cinéma qui me rendait malade parce qu'elle était historiquement fausse. L'exemple le plus simple, c'est le supplice de la planche qu'on a tous vu dans les films de pirates et qui n'a sans doute jamais existé. On n'a jamais poussé quelqu'un au requin en faisant marcher sur une planche. Donc, moi j'avais en plus à me débattre, j'avais mon souci et consistait aussi à me débattre avec le mythe du pirate pour essayer de me rapprocher de la véracité historique. Et donc jouer avec les codes et en même temps éviter l'image du final, c'est-à-dire le truc que tout le monde a en tête, voire du rhum, qui en fait est historiquement faux.
Mais je pense que du coup on a vraiment un lien parce que ce que vous écrivez c'est de l'ASF. Donc c'est encore un niveau d'exigence vis-à-vis de la cohérence du merveilleux, qui est supérieur, enfin qui est supérieur non, mais qui se rapproche de la rationalisation extrême de certains mondes de fantaisie. Et donc on irait vraiment dans le sens de plus le merveilleux doit être précis, doit être rationalisé, plus la véracité historique a besoin d'être établie et qui est une statistique. Une augmentation progressive entre les deux. Je trouve que c'est une hypothèse intéressante. Ouais. Et je donne la parole à Joseph.
C'est juste pour compléter le propos. Moi, je suis absolument d'accord avec tout ce qui s'est dit. Il y a deux petites choses. Quand on a lancé le troisième épisode de Via Temporis, qui se passe au temps de Néron, on a eu la problématique autour des contraintes historiques. C'est une période extrêmement violente et notre lectorat est plutôt jeune. Et on s'est vraiment posé la question jusqu'où va-t-on dans la violence, éventuellement en tout cas l'évocation de celle-ci, voire le sexe. Il y a la série télévisée Rome qui nous a donné une piste, qui nous permettait de mettre un curseur quelque part. En même temps, elle n'est pas destinée à ce public-là. Mais donc les principales contraintes étaient à la fois de faire dans l'ultra-réalisme et en même temps, on a dû édulcorer tout le propos autour de Néron, on ne pouvait pas décrire des orgies, on ne pouvait pas, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que finalement, quand on crée un univers, alors, je m'en suis aperçu en 2-3 ans d'expérience, je ne sais pas, j'ai demandé à tous mes voisins qui ont plus d'expérience que moi, j'ai remarqué que parfois, quand on se lance dans un sujet sérieux en faisant de la documentation, eh ben, la grande histoire rattrape la vôtre. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Dans le premier épisode de Via Temporis, Opération Marie-Antoinette, on a une séquence où le couple de jeunes héros assiste à la fuite à Varennes de Louis XVI et de toute la famille royale et participe en fait à l'arrestation du roi dans cette petite localité qui est pas si loin que ça, qui est un peu plus au nord qu'ici. Je suis allé sur place faire des repérages parce que j'avais besoin pour décrire dans mon roman de manière très très réaliste comment ça se passait, de voir à quoi ressemble la petite ville de Varennes aujourd'hui. Donc je suis allé exactement à l'endroit où Louis XVI a été arrêté avec la famille royale. Et là, vous avez une grande plaque. Il y a marqué ici, en 1792, j'ai oublié la date, pardon, je crois que c'est en juin, a été arrêté Louis XVI et sa famille. Grâce à, il y a toute une liste de noms, et ça se termine par « et deux jeunes étrangers ». J'ai trouvé ça extraordinaire. Quand je l'ai vu, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à mon éditeur en lui disant « t'as vu, nos héros ont participé à l'histoire, et c'est vrai ». Voilà. Et donc parfois, la petite... Bon, c'est une anecdote, mais je ne sais pas, peut-être que mes voisins ont des histoires similaires.
Je n'ai pas tout à fait... Enfin, si je réagis sur ce que tu viens de dire, il y a aussi le risque... il ne faut pas être non plus prisonnier de la grande histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi la petite part de liberté. Nous ne sommes pas des historiens, enfin, dans mon cas, en tout cas. On se documente, on essaie de s'approcher le plus possible de la véracité historique, mais personnellement je ne m'en sens pas prisonnier, et si je tombais sur un événement ou sur un fait historique qui devait contredire mon propos, je crois que j'ai dit ça sous le tapis.
Moi dans ces cas je ruse. J'avais dans je ne sais plus quel tome des lames un complot qui devait éclater. Et historiquement, il devait éclater 2 mois plus tôt que ça m'arrangeait. Donc en fait, j'avais quand même envie de faire une certaine réalité historique. Donc j'imagine une petite anecdote où Louis XIII se préparait à faire arrêter les comploteurs. Et le cardinal de Richelieu, apprenant ça in extremis, l'empêchait de le faire, lui disant « on n'a pas fini de monter la souricière ». Attendons 2 mois, ça arrangera Pevel.
Alors je voudrais, pour le petit temps qui nous reste, revenir un peu sur la question du jeu qui a été abordé par Mathieu Gaboury. Voilà, il y a le jeu là, voilà. Non, je pense qu'ils étaient obligés de rester jusqu'à qu'ensuite. Donc malheureusement, nous allons parler du jeu avec moins de moyens. Donc c'est une question qui est attendue mais qui est assez inévitable. C'est un trait qui est commun aux différents auteurs de Palette, sauf peut-être à Kellinger, que j'aimerais d'ailleurs bien vous entendre là-dessus. Le fait que vous travaillez tous, soit dans le milieu du jeu ou à partir d'un jeu, ou que vous continuez à avoir des rapports avec à vouloir développer des jeux à partir de vos univers. Voilà le lien qu'il y a entre raconter une histoire et permettre à d'autres d'investir ce monde ou un monde associé aux histoires que vous écrivez. Est-ce qu'il y a des jeux développés à partir de ce que vous écrivez? Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous avez un quelconque rapport avec ça, ou est-ce que vous êtes une exception dans
Ich habe selbst ein Spiel mitentwickelt, also ein eigenes ein Spiel, das nicht auf meinen Büchern basiert, sondern da kamen die Entwickler des Spiels kamen zu mir und haben mich gefragt, ob ich ihnen helfe, die Welt zu entwickeln, die Welt zu bauen. Das war ein Spiel, das heißt Engel auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es das auf Französisch gibt, es gab es auf jeden Fall in Amerika. Und ich habe eigentlich gar keine Geschichten erzählt in dem Fall, sondern einfach nur an dieser Welt gearbeitet.
J'ai tout de même participé à un jeu, en fait, il m'a été développé à partir de mes livres. Ce sont simplement des développeurs qui m'ont demandé de les aider. Ce jeu s'appelle The Angels, c'est le visage, et je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais en tout cas il a été développé aux États-Unis.
Ich habe natürlich als Teenager Rollenspiele gespielt, habe Dungeons and Dragons und diese ganzen Spiele gespielt. Wobei ich jetzt gerade überlegt habe, als die anderen geredet haben, ob das einen Einfluss auf meine Bücher, auf meine Romane hat. Und ich glaube nicht. Ich glaube, meine Romane sind doch ganz, ganz anders als das, was ich mit 13, 14 gespielt habe.
Lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo comme très jeune. Maintenant, la question de savoir si ces jeux ont une influence sur ma production, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça les ait particulièrement influencés.
Est-ce que je me rappelle, Pierre, il y a quelques années à Cerisy, vous expliquiez que commenciez par bâtir, encore pour vos romans, par bâtir un univers très complet, comme on pourrait l'imaginer pour un jeu de rôle, mais bon, pour ensuite mieux pouvoir l'oublier, mais pour votre dernier opus qui revient à la fantasy, on peut avoir l'impression comme ça que derrière il y a, même s'il n'y a pas de cartes, j'ai très étonné, hein, on est complètement un peu perdu hein, dans ces royaumes, pas de cartes, pas de lexique, rien. Mais bon, on a tout de même le sentiment que ça existe derrière. C'est toujours quelque chose que vous faites?
Oui, alors ça, oui, par contre, ça, depuis le début, je conçois les univers avant. Ce serait un peu exagéré de dire avant d'avoir la moindre idée de ce que je vais y raconter, c'est pas exactement vrai. Mais tout de même, je prends plaisir à développer l'univers. Et donc, pour Au Royaume, là où, puisque l'univers est créé, c'est un. Pour l'univers donc de Au Royaume, qui est original autant qu'un univers peut l'être, je me suis en fait fabriqué ma doc moi-même. Mais je travaille sur la base de cette doc à peu près aussi sérieusement. J'ai travaillé sur la base de la documentation réunie pour le Wildstadt, pour les Lames du Cardinal. Ça me vient peut-être du jeu de rôle, où en évidence on crée l'univers le plus complet possible, puisqu'on ne savait pas ce que les joueurs allaient en faire et de quoi ils allaient avoir besoin. Donc par défaut, il y en avait une ambition d'universalité, c'est-à-dire de vraiment tout montrer, tout dire, tout expliquer dans la mesure du possible. Donc peut-être que ça me vient de là. D'un autre côté, j'appartiens aussi à une espèce d'auteur qu'on qualifie de structuraux, et j'ai besoin de beaucoup imaginer avant de commencer l'écriture, non seulement d'imaginer l'univers, mais même d'imaginer toute l'intrigue, le découpage chapitre par chapitre. J'ai ça en commun avec, entre autres, avec d'autres auteurs passés, vivants, est mort. Je sais que qui était pas fréquenté parmi ça, ben, je sais pas, Balzac par exemple rédigeait des plans, et de l'auteur de Madame Bovary également, je crois pas qu'ils étaient influencés par le jeu de rôle mais pour l'avoir fait. Donc, mais blague à part, la nécessité de s'appuyer sur un univers cohérent, pour moi, me rassure, j'ai besoin de n'avoir plus qu'à écrire lorsque je commence l'écriture. Si j'ai encore besoin d'imaginer des choses, ça me parasite le travail d'écriture, et ça me ralentit, ça me gêne, je doute plus. Il vaut mieux, j'ai besoin d'avoir tout le biscuit avant de commencer vraiment cette entreprise.
On a encore un petit peu de temps, je ne sais pas qui j'ai envoyé. Alors, sur cette question, en fait, je vais avoir une réponse schizophrène. Sur un roman, je m'intéresse, comme Pierre, d'abord au scénario et à la structure. J'ai besoin d'avoir la structure complètement posée avant d'écrire l'histoire. Et ça, c'est mon cas. Par contre, j'ai peut-être moins besoin que lui d'aller bâtir totalement l'univers derrière. Je m'efforce, pour des questions aussi de rapidité de travail, à m'échafauder et à ne structurer que les éléments dont j'ai besoin pour mon histoire. En fait, je ne vais pas avoir besoin d'avoir défini l'intégralité de cet univers pour y faire vivre mes personnages. Il y a un petit côté assumé décor de cinéma où je vais mettre en avant les éléments dont j'ai besoin, mais il y a des choses que je ne vais pas creuser. Et la deuxième partie, donc le côté schizophrène, c'est quand je travaille par contre sur un jeu vidéo, parce que c'est mon métier, comme je ne suis pas tout seul, et que ce que j'ai écrit va être développé par plusieurs dizaines de personnes, parfois notamment en travaillant en France, donc à distance, il y a la nécessité là par contre d'avoir bâti l'intégralité, de ne laisser aucune place au questionnement. C'est un document technique. C'est pas un travail de romancier, mais c'est un travail de scénariste pur ou de création d'univers. Et c'est fournir aux différentes compétences, aux différents artistes et artisans qui vont prendre ce monde et le bâtir virtuellement, les outils, tous les éléments. Donc là, il y a un authentique boulot de bâtisseur à faire en amont. Et c'est ce qui me prend la majeure partie de mon travail. Et c'est d'autant plus amusant, enfin, moi ça me plaît, c'est que en fait, et ça n'est pas destiné à être un roman, et si j'écrivais un roman, je ne passerais pas autant de temps à développer le monde, puisque je travaillerais dessus tout seul si c'est un roman.
Juste ajouter une petite chose, c'est que même si l'univers est entièrement développé, il ne faut ensuite, et encore dans la mesure du possible, on sait bien qu'on ne peut pas tout couvrir, mais il n'empêche que dans la narration, dans le bouquin, il ne faut raconter, il ne faut parler que de ce qui sert à l'intrigue. Sinon, on se retrouve avec des livres d'univers, des espèces d'atlas ou des guides de voyage, des guides touristiques. C'est souvent une erreur de débutant, de romancier venant du jeu de rôle, qui commence par « Le royaume de Untel était né en telle année, il avait été créé, gna 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 gna. » Le royaume de Untel, pour l'instant, on s'en fout, qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, il faut, quand bien même l'univers est hyper développé derrière, il ne faut utiliser que le matériau nécessaire à l'intrigue.
Ou alors c'est le Silmarillion.
Aussi. C'est pas un projet romanesque, en fait, le Silmarillion.
Moi, j'ai tendance à travailler un peu comme Stéphane, à savoir que je fais un synopsis, 4-5 pages maximum, dans lequel je raconte toute l'histoire. C'est très utile pour l'éditeur, ça lui permet de savoir vite si ça va lui plaire ou pas, déjà. Et après, je vais étendre ce synopsis dans une version beaucoup plus allongée et que je vais découper en séquences et je vais réfléchir en termes cinématographiques aussi, à savoir tous les chapitres, où est-ce qu'ils se passent, le lieu ou les lieux, mais en général, il n'y en a qu'un, ou il y en a peut-être deux, mais souvent un seul. Et c'est vraiment comme au cinéma, extérieur jour, extérieur nuit, c'est il fait jour, il fait nuit. Enfin, je pense en termes d'éclairage, en termes déjà, j'essaie de visualiser déjà la scène. Ça, c'est la première chose. Et après, je travaille chaque séquence de manière plus longue. Et l'essentiel du travail consiste ensuite à trouver du rythme. C'est-à-dire que quelque chose qui peut faire dans le synopsis 3 lignes peut être étendu à 2 ou 3 chapitres dans le roman. Alors qu'inversement, quelque chose dans le synopsis, il pouvait avoir 10 lignes au début qui peuvent être juste la séquence d'introduction. Après, c'est en fonction, à mesure que j'écris, je me rends compte que telle scène devient très importante, qu'il faut vraiment lui donner beaucoup d'importance. Puis telle autre, elle est un peu secondaire. Bon, voilà. Enfin, c'est vraiment une histoire de rythme.
Parce que toi, tu as un de tes univers est adapté en jeu de rôle, n'est-ce pas? par les excellentes éditions sans doute. Et la chose, moi, va bientôt m'arriver. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'étais rendu compte, comme moi, de la nécessité de développer des choses que tu n'avais pas abordées nécessairement avant, parce que ça ne servait pas le projet du bouquin, mais par contre, qui, dans le domaine du jeu, lorsque ça va devenir le matériau d'un maître de jeu et puis de joueurs, là, avait nécessité de création. Est-ce que tu as senti ça, le besoin d'approfondir certaines choses et de les développer ?
Il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'on est sur des objets, des entités imaginaires, enfin, à la fois qui partagent tout et qui sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire que sur le jeu, moi, ce qui m'importe, notamment sur le jeu de rôle, c'est que l'univers devienne autre chose. C'est comme quand on fait par exemple une adaptation ciné d'un roman, si ça se veut fidèle, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui est intéressant, c'est que à travers ce média-là, l'objet imaginaire, l'entité imaginaire va se sublimer, devenir autre chose. Et le jeu de rôle, c'est pareil. Pour moi, quand on a fait un jeu de rôle sur Agon, quand on a fait un jeu de rôle sur les Féales, l'intérêt pour moi, c'était qu'on ouvre d'autres portes. Si ça devait juste être essayer de respecter un roman chapelle où tout le monde s'ennuie, ça n'était pas sens. En revanche, si on décide de dire le jeu de rôle, il est là pour construire un autre objet imaginaire et surtout un imaginaire musclé, parce que pour dire du jeu de rôle, il va falloir que ce soit quand même suffisamment précis, suffisamment souple, pour que ce soit approprié par un certain nombre de joueurs et de maîtres du jeu. Je trouve que dans la démarche du jeu de rôle, en tout cas, c'est très très important à la fois de savoir lâcher prise et à la fois de dire on développe beaucoup d'autres choses que le roman n'a pas abordé.
Un grand merci à tous nos auteurs et un grand merci à vous. La table ronde suivante arrive. Si vous voulez poser des questions, on le fera à l'extérieur. Merci.